C'est un podcast Vivre FM. Vivre, c'est épatant sur Vivre FM.
Comment et pourquoi devient-on illustrateur de livres? Comment dessine-t-on une couverture? Deux illustrateurs sont avec nous aujourd'hui dans le studio. Armel Golm, qui travaille beaucoup pour l'édition Jeunesse, et Didier Graffet, spécialisé dans la fantasy, sont avec nous pour tout nous dire.
Vous écoutez Vivre, c'est épatant avec Carole Clémence.
Armel Golm, bonjour.
Bonjour.
J'ai bien prononcé votre nom ?
Oui, oui, c'est bien ça, Armel Golm. Oui.
Très bien, parfait. Armel, vous êtes illustrateur, vous êtes professeur également, oui. Vous êtes un artiste peintre. Est-ce que vous vivez du métier d'illustrateur de couverture de livres ou d'illustration de livres ?
Non, parce que en fait, j'ai choisi de répartir mon temps de sorte à travailler surtout, finalement, sur des illustrations de projets personnels.
Oui.
Je prends assez peu de commandes, je trouve que j'en prends déjà trop, parce que en fait, j'aime pas travailler dans l'urgence, j'aime pas travailler avec des délais imposés, et par là même, finalement, je préfère développer mes propres projets, qui correspondent un petit peu à ce que moi j'ai envie de faire déjà, et m'imposer mes propres délais. Il y a beaucoup de projets sur lesquels je travaille, finalement, ça va prendre des années, et donc ça, pour un éditeur, en fait, c'est pas viable.
Oui,
donc,
bah oui.
Donc non, moi je vis parce que à côté j'enseigne le dessin académique dans plusieurs écoles, que je fais aussi de la direction artistique. Enfin voilà, c'est un ensemble de plein de choses.
Oui.
En soi, je crois que j'ai quatre métiers différents.
Oui. Mais vous voulez les conserver, ces quatre métiers différents ?
Oui, là pour l'instant, je trouve que j'ai un équilibre qui est bien, qui me convient. Il y a des moments où je me dis mince, j'aimerais avoir plus de temps pour faire de l'illustration, et en même temps plus de temps pour faire de l'illustration, c'est-à-dire devoir prendre forcément des commandes. Avoir encore une fois ces histoires de délai, travailler un peu dans l'urgence, prendre des projets que j'ai pas envie de prendre. Et ça, à un moment donné, je l'ai fait. J'ai beaucoup fait d'illustrations pour la publicité, pour l'audiovisuel, des films, des projets de dessins animés, des trucs comme ça. Et en fait, moi, ça me convenait à un moment, et assez vite, j'en ai eu marre.
Voilà. Alors ces commandes, elles vous imposent tout, c'est ça ? Il n'y a pas de liberté, il n'y a pas seulement un deadline ?
C'est sûr que quand on travaille dans la publicité, ça impose quand même beaucoup de choses. Moi je me souviens, je prenais toujours des projets où on me demandait « est-ce que tu sais faire ça ?» Alors évidemment je ne savais pas le faire, mais je disais oui, parce que j'avais besoin de manger, tout simplement.
Oui.
Et donc je galérais à essayer de m'adapter au projet. Mais bon, c'était une bonne période aussi, parce que ça m'a permis d'apprendre plein de choses. Techniquement, plein de choses que j'aurais pas pu mener à bien autrement. Si je m'étais pas retrouvé avec des commandes où on me demandait un certain style d'image, je ne les aurais pas fait par moi-même. Donc forcément, ça m'a appris des choses.
Oui. Didier Graffet, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes aussi illustrateur et peintre, et vous vivez du métier d'illustrateur de livres ?
Alors, je vis de ce métier. Alors, on parlait de la publicité tout à l'heure. Moi, j'ai commencé... par faire de la pub dans des agences, et puis j'y suis pas resté, parce que ça me convenait pas.
C'est-à-dire faire de la pub,
je faisais du design, du storyboard, des layouts, des choses comme ça, enfin, c'est ce qu'on appelle voilà, un jargon technique. Mais non, je voulais pas ça, parce que j'aimais pas le milieu en fait. Après, ça a peut-être changé, mais dans les années 90, c'était un peu assez différent. Et donc je me suis mis en indépendant. Alors c'est vrai que j'aurais pu avoir directement, je dirais, un salaire d'entrée, et puis finalement j'ai choisi de me mettre en indépendant avec tous les risques que ça suppose. On sait pas trop ce qui va se passer, mais bon, on y va parce que c'est une passion, quoi, le dessin. Et donc voilà, on m'a proposé plusieurs fois d'enseigner, mais je vois pas comment concilier les deux, entre le travail qui est assez régulier, et j'ai cette chance-là qu'il soit assez régulier finalement. Quand on suit des séries de couvertures à faire, bon, bah, ça arrive régulièrement. Et comment faire pour à côté donner 2 jours de cours par semaine, plus le trajet, plus tout ça. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour moi, je voyais pas comment faire.
Oui.
Entre le travail éditorial de l'édition qui arrive régulièrement, les projets personnels effectivement qui me prennent du temps, mais que je travaille aussi sur le long terme, à côté des urgences, on va dire, éditoriales. Voilà, donc j'ai la chance d'en vivre, mais c'est vrai que c'est une passion qui nous tire aussi, quoi.
Oui, vous vivez de votre passion.
Oui, avec les contraintes aussi, ce que disait Armel, c'est vrai qu'il y a des contraintes même dans les couvertures. Parfois, on me demande de faire des images en me disant « mais comment je vais faire ça ?» quoi. Et puis, alors, c'est à moi de trouver le...
C'est-à-dire, donner un exemple.
Je sais pas. Bon, ça reste quand même dans ce que j'aime faire, attention, parce qu'à la base, un éditeur, il vous choisit parce qu'il aime votre travail, donc quelque part, il veut retrouver ce que vous faites.
Oui.
Hein. C'est pas... Il y a déjà une sélection, je dirais, entre les illustrateurs, peut-être, qui est faite par l'éditeur pour pouvoir choisir celui qui correspond peut-être le mieux au style d'image qu'on va traiter. Mais il y a toujours un petit challenge, des fois, sur une image. Comment je vais faire ça? Quel regard je vais avoir dessus? Quel point de vue adopter? Moi, ouais. ça m'intéresse, même de me confronter parfois à des sujets qui sont plus compliqués.
Oui, alors vous, enfin tous les deux, vous travaillez notamment pour des livres de fantasy, pour la jeunesse aussi. Vous, Armel?
Plus tellement.
Non, plus tellement.
Non. J'en ai fait au début, et puis.
En même temps, la fantasy, c'est quand même un public assez jeune.
Mais
non, c'est notre génération.
Ouais,
en fait.
C'est.
Maintenant.
Et
c'est
puis
les gens qui avaient 20 ans il y a 30 ans, donc ils ont. Enfin, voilà, c'est les gens qui. Ça va des ados, à mon avis, jusqu'à 50 ans.
Beaucoup moins de fantasy aujourd'hui. Ce que j'ai fait de plus fantasy récemment, c'est du design pour une bande dessinée.
Oui.
Et donc là, le public de la BD, je sais pas, c'est ado, adulte, quoi. Mais moi, j'ai pas fait les dessins de la BD, j'ai juste fait la conception de cet univers-là. Et je pense que mon dessin est en lui-même assez peu jeunesse. Ça peut tout à fait convenir en tant que travail préparatoire, par exemple sur une bande dessinée ou sur un film qui aura un sujet... qui peut atteindre la jeunesse in fine, mais mon dessin en lui-même n'est pas très jeunesse.
Oui.
Il n'est pas très séduisant, je pense, pour la jeunesse.
Le dessin pour ce projet particulier ou pour en général?
De manière générale.
D'accord, ouais.
Mais parce que je ne sais pas, les choses qui m'inspirent, c'est rarement des illustrations ou des peintures jeunesse.
Oui. Mmh. Ouais,
moi, ce que j'aime, c'est un certain style de peinture, de dessin... finalement très classique. Voilà.
Et pour la jeunesse, il faut s'adapter, il faut créer des personnages si c'est un style plus rond, plus léger, c'est quoi
je sais
pour
pas,
la jeunesse
moi, quand je travaillais dans la jeunesse, on n'arrêtait pas de me dire qu'il fallait que je mette des couleurs différentes,
du rose,
des ceci ou du bleu, beaucoup de bleu. On me disait beaucoup
bleu.
Des études montrent que le bleu ça marche. Et voilà. Et donc. En plus, je sais pas, moi, j'ai l'impression, là, pour le coup, maintenant, de pouvoir faire des projets qui correspondent vraiment à ce que j'aime. Et c'est une petite niche, hein, on va dire, c'est de l'illustration pour adultes, effectivement un peu fantastique, un peu imaginaire. Ça touche pas un nombre énorme de gens, mais en tout cas, c'est la niche dans laquelle, finalement, j'ai réussi à faire ma petite place, quoi.
Oui, et c'est là où vous vouliez aller ? C'est ce qui vous
Est-ce que c'est là où je voulais aller? Bah, j'imagine d'une certaine manière. Je me retrouve aujourd'hui à fréquenter des gens que j'admirais quand j'étais ado, par exemple, et qui éventuellement veulent travailler avec moi. Donc ça, il doit y avoir quelque chose.
Par exemple.
Bon, je sais pas. Justement, ce projet de BD, c'était avec un dessinateur que j'adore, qui s'appelle Fred Blanchard. Et j'étais fan de Fred Blanchard quand j'étais ado. Il se trouve qu'il a fait la même école que moi. Enfin. On s'est rencontrés un peu par hasard comme ça, en parlant de ça. Et maintenant, je me retrouve à dessiner parce qu'ils me le demandent. Enfin, c'est chouette, quoi. J'ai fait un livre dont la postface a été faite par Alan Lee, qui est le designer des films du Seigneur des Anneaux, mais qui, pour moi, était bien avant quelqu'un déjà très, très important. Et à la limite, les designs des films, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, loin de là. Mais voilà, donc je me retrouve avec ça, alors que c'était ces dessins qui m'ont donné envie de dessiner au départ. Donc j'imagine que oui, d'une certaine manière, c'est ce que je voulais. Mais en tout cas, j'ai pas du tout, j'ai pas œuvré du tout pour ça. C'est un truc qui s'est fait progressivement et un peu par des bons hasards, j'ai envie de dire.
Oui. Ouais. Et vous, Didier, vous vouliez être dans ce milieu de la fantasy, de travailler dans ce milieu
particulièrement, initialement, c'était pas de la fantasy, c'est du fantastique.
Oui.
Le fantastique m'intéressait. Alors, c'est vraiment très large, hein. Ça peut regrouper un peu de SF, un peu de... même des textes. On parlait de Lovecraft tout à l'heure, mais voilà. Bon, c'est le fantastique. C'est ce côté un peu étrange dans une réalité... dans la réalité, quelque chose d'étrange qui va se passer, quoi. Plus que la fantasy. Bon, il se trouve que quand j'ai commencé, il y avait très peu d'éditeurs de fantastique et de fantasy en France. Surtout dans les années 90, il y avait le... Bon, il y avait quoi ? Il y avait le fleuve, il y avait peut-être le livre de poche qui faisait ça, de Noël aussi, avec Présence du Futur, je crois. Hein. Voilà. Donc j'ai commencé comme ça, et aussi avec le jeu de rôle à côté, parce que illustrer des backgrounds de jeu de rôle, enfin tout ce qui est l'univers du jeu de rôle, finalement il y avait des possibilités créatives, quoi. Mais très très peu d'éditeurs. Et puis il est arrivé Harry Potter et Le Seigneur des Anneaux au cinéma. Voilà, Harry Potter, le... Bon, que beaucoup de gens n'ont pas vu arriver sauf Gallimard, et donc à partir de là la fantaisie a explosé, et là on a tous les éditeurs qui se sont mis à faire de la fantaisie.
Ah oui, à partir de ce moment là
vraiment, enfin moi j'ai senti différence au salon du livre de Paris, quoi. Ouais, ça a été une explosion, tout le monde s'est dit on l'a pas vu venir, on pensait que c'était des trucs pour les ados, quoi. Et c'est vrai qu'on avait peu de fantaisie, finalement nous on a de la fantaisie anglo-saxonne, et le problème c'est qu'il fallait la traduire, donc on a tous les Robin Hood, la Belle Garyade, tout ça. Fin. Et donc, du coup, ça a ouvert vraiment. Et on voit aujourd'hui, hein, on est quand même dans un monde de fantasy et de fantastique. Quand on voit même les pubs s'y mettent, enfin, je trouve qu'il y a tout ça, quoi. Et il se trouve que finalement, les gens qui font ça aujourd'hui, c'est les gens qui avaient 20 ans il y a 30 ans, quoi. Donc,
qui lisait ce type de roman.
Voilà, c'est ouais, ça. Donc, en fait, c'est cette génération-là qui maintenant a un peu ouvert les vannes. Et puis maintenant, il y a le jeu vidéo, maintenant, il y a tout ça. Ça, c'est une espèce d'ensemble. On est dans un monde un peu parallèle, là, je trouve. Et en plus du monde actuel, qui est quand même un peu pas terrible, je pense que ça a pris un peu plus d'ampleur, quoi.
Oui.
Le fait de pouvoir rêver un peu plus avec...
C'est important.
Ouais, c'est ça.
Et alors, ça va se développer, ça va pas régresser, vous pensez que ça va se développer encore ?
Jusqu'à un certain point, je sais pas, on parle de métaverse là, actuellement, tout cet univers parallèle où les gens veulent finalement se mettre un peu la tête dans le sable et se disent « je vais me mettre là-dedans,
un peu
pas trop penser », voilà, c'est un peu ça. Donc la réalité est quand même plus belle d'un certain point de vue, hein. Mais ça se développe, effectivement. Mais on reste quand même sur des poncifs en fantasy, sur des choses qui ont été développées, des codes, voilà. Je pensais, Le Seigneur des Anneaux, c'est la référence, quoi. Les magiciens, ils ont un grand chapeau, le machin. Enfin, voilà, on reste quand même sur ces codes-là, j'ai l'impression.
Oui, oui.
Donc, ça évolue peu de ce côté-là. Après, il y a des fantaisies, peut-être un peu plus... Je me souviens du Soldat Chaman, par exemple, de Robin Hood, où là, on a une fantaisie...
Que vous aviez illustré.
Oui. On a un héros qui est un peu enrobé, quoi. Donc, on a quelque chose de différent.
Oui. Ouais.
Un code un peu différent du héros qui est... On va peut-être jouer sur les anti-héros, peut-être, à mon avis, c'est ça. Mais de toute façon, la fantasy, c'est ça. C'est toujours des personnages qui se connaissent pas forcément, qui à un moment vont être appelés pour un truc, ils savent pas trop quoi, et en fait, c'est une quête, et ils vont se retrouver. Et puis voilà, c'est un peu le principe du roman de fantasy, c'est un peu ça, la quête, quoi. La
oui.
quête de gens complètement sortis de nulle part, qui ont en fait un destin qui va être... pas croyable, quoi.
Ouais, ouais. On va continuer d'en parler. Vous, Didier Graffet, vous avez illustré de gros auteurs, Glenn Cook, David Gemmell, Robin Hobb, dont on vient de parler, et d'autres. On en parle dans 2 minutes sur UFM, juste après une pause musicale.
Vous écoutez Vivre, c'est épatant, avec Carole Clémence.
Et on parle d'illustrateur aujourd'hui, du métier d'illustrateur. On parle d'illustrateur de livres, de fantasy. Notamment, on en parle avec Armel Golm et Didier Graffet, nos deux invités aujourd'hui sur Vivre FM. Alors, est-ce que vous êtes nombreux à illustrer dans les livres de fantasy, de SF ou de fantastique ? Qui répond ? Armel ?
Moi, je pense que on n'est pas particulièrement nombreux, déjà parce qu'il n'y a pas tant non plus d'éditeurs
oui.
que ça.
Il y a Bragelonne pour qui vous travaillez tous
oui,
les deux.
Oui, je pense que vraiment dans l'édition adulte d'Imaginaire, il y a Bragelonne est incontournable.
Oui, il y a et... Nemos en parallèle.
Ouais, Nemos. Voilà. Mais voilà, il n'y a pas tant d'opportunités en
oui.
fait de dessiner. Et ensuite, bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire ce métier. Mmh. Hein. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ne tiennent pas non plus, en fait. Parce que
bien sur la durée.
Parce que c'est dur.
Sur le temps.
C'est quand même assez dur.
Expliquez-nous, détaillez-nous vos conditions de travail dans ces cas-là.
Déjà, financièrement, ce n'est pas forcément simple.
En fait, il faut en faire beaucoup.
Il faut
avoir le temps, il faut... Ouais, c'est ça. Enfin, faut être disponible.
Moi, je me souviens d'une. J'avais un bouquin sur un illustrateur que j'adore, qui s'appelle Jeff Jones, dont je parle à chaque fois. Ouais. Et Jeff Jones, dans ce bouquin-là, il explique que il a pu faire toutes ses couvertures, toute sa signature, parce que finalement, il s'en sortait plutôt pas mal. Je veux dire, à un niveau personnel, c'est-à-dire, il disait, en gros. Ma femme, elle acceptait qu'on mange du riz et des pâtes à peu près tous les repas, quoi. Il y a un côté un peu comme ça, hein, qui peut ne pas être simple.
Oui.
Donc ça, c'est quand même une contrainte, déjà. Ensuite, tout simplement, il y a le nombre de sujets potentiels à illustrer, qui n'est pas non plus infini. Je pense qu'il y a plus de personnes qui sortent diplômées d'école en France que... Il y a de besoin pour des illustrateurs en France.
Il y a d'écoles qui se créent aussi, d'écoles d'illustration. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, et je comprends tout à fait, mais les jeunes, ce qui les intéresse, c'est l'image, la musique. C'est vrai que c'est plus attirant que certains autres métiers. Mais du coup, il y a beaucoup de... Quand on a une promotion de 30 gamins qui sortent d'une classe... il va falloir qu'il s'intègre dans un circuit éditorial qui est déjà
plein. Est-ce qu'il y a des formations spécialisées pour illustration de livres, de publicitaires, c'est ça ?
Il y a des écoles d'animation, d'illustration.
Il y a des écoles d'illustration.
Armel, il travaille pour l'école Méliès.
Moi, j'enseigne dans une école de cinéma d'animation.
Oui.
Voilà.
Et puis dans une école plus généralement sur les arts graphiques et la direction artistique, celle que j'ai faite. Qui s'appelle Penningen. Oui. C'est sûr que il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que il faut effectivement être techniquement assez capable aujourd'hui parce que tout le monde est quand même assez bon. Mais en même temps, je pense que la différence ne se fait pas forcément là-dessus. Il y a plein de gens techniquement très bons, mais il faut trouver un truc singulier, quoi. Il faut trouver quelque chose à dire, il faut trouver. On a envie de raconter quelque chose, en fait.
Et en fait, je pense qu'il faut être surtout soi-même. Et le problème, quand on a 20 ans, c'est qu'on, ce qu'on disait tout à l'heure, en dehors du...
En antenne,
c'est que finalement, quand on est jeune, on aime plein de trucs. Alors on prend plein de trucs, et c'est vrai que les jeunes sont la plupart très bons techniquement, mais ils n'ont pas encore assez d'expérience et ils ne savent pas trop ce qu'ils aiment, eux, réellement. Où ils vont se focaliser sur un truc, le Japon par exemple. Mmh. Je pense, des choses très très, mode, voilà, c'est très à la mode, mais c'est à la mode très bien. Mais voilà, ils sont combien à aimer ça, quoi. Donc cette expérience-là, ils l'ont au fur et à mesure. Moi, je sais aujourd'hui ce que j'aime et ce que j'aime pas, quoi. Enfin, je veux dire, après quelques années, j'ai essayé des choses et maintenant je sais qui je suis à peu près, en tout cas, même si ça évolue tout le temps, mais j'essaye d'être cohérent avec la personne avec laquelle je suis.
Oui.
À travers mon travail. Et donc c'est là où je défends peut-être un travail plus d'auteur que d'illustrateur. Juste, je suis illustrateur. L'illustrateur, il va exécuter une commande. En fait. Voilà, il fait de la pige. Mais un auteur, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il faut qu'à travers cette image-là, il y a un peu de soi, en fait, mais que ce soit pas forcément visible au premier abord, mais que ce soit quand même là. Mmh. Et un jour, dans un salon, il y a une personne qui m'avait dit « Mais moi, j'aime bien votre boulot, mais je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui me touche un peu plus. » Et bon, voilà, ça m'a fait plaisir. Et parce que je suis comme ça, j'ai mon caractère, j'ai ma façon de voir, mais j'ai tendance à m'investir dans mon travail, et même, j'irais investir même... Par mes enfants, je les ai représentés sur des couvertures, des choses comme ça. Donc il y a ce côté personnel que j'ai du mal à dissocier, parfois. Je me verrais pas faire un truc comme ça, très, très froid et très
répétitif. Vous avez représenté vos enfants sur quelle couverture ?
J'ai représenté Lancelot, mon fils aîné, je crois que c'est la Belle Gariade. J'ai représenté Maëline sur un livre sur les sirènes que j'avais fait avec Soleil à l'époque. Oui. Lancelot, avec son nom, je l'ai représenté aussi sur un livre sur les chevaliers de la table ronde.
Bien sûr, forcément.
Voilà. Mais après, c'est mon côté personnel, les gens le savent pas, mais voilà, c'est aussi mes références. Ma femme aussi a servi de modèle. Moi, non. Moi, je le fais pas. Alors, il m'arrive de prendre des pauses pour essayer de trouver quelque chose pour le dessin, on va dire, mais derrière. Je me représente pas. Mais mes enfants, à différents âges, en fait, me servent de
modèle.
De modèle.
Oui,
ma fille m'a servi, Maëline m'a servi aussi pour les mettre en lumineur récemment.
Vous avez illustré beaucoup de choses, vous avez illustré beaucoup d'auteurs, Robert Jordan, Joe Abercrombie, Robin Hobb, Glenn Cook pour La Compagnie Noire, David Gemmell, et même un calendrier pour le Trône de Fer. Oui, voilà.
Alors... Je suis content parce que le dollar est en train de... en ce moment, bon, c'est le seul truc positif, je dirais, mais quand on travaille pour les Américains, ça vaut un peu plus le coup qu'il y a quelques mois. Mais bon.
Et donc ça, ce sont vraiment les gros auteurs de la fantasy.
Oui.
Vous observez les illustrations qui sont faites pour l'éditeur américain et vous reproduisez pour le marché français. Comment ça se passe? Vous faites quelque chose de totalement différent?
Pas du tout. Je regarde pas du tout ce qui est fait avant. Ça m'intéresse. Enfin, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais je veux pas me polluer. Parce qu'en fait, quand on voit des images, nous, on les imprime tout de suite. Hein. Enfin, je veux dire,
Il y en a plein. Parce que, d'accord, il y a peut-être un éditeur américain pour tel ou tel livre.
Oui.
Mais il y a peut-être aussi d'autres éditeurs, les versions poche, dans d'autres pays, en Angleterre, en Allemagne et tout. Enfin, on peut ne. Plus les fanarts, les machins, les trucs. On peut ne jamais en sortir.
C'est ça. Et puis, à tel point que même quand Fabrice Boriot de Bras Jaune, le maquettiste et DA de Bras Jaune, me demande un truc, il me dit tiens, je peux t'envoyer une image si tu veux pour te montrer. Je dis non, m'envoie rien. Je préfère m'imaginer ce que ça va être plutôt que d'avoir déjà. Pour un peu que cette image-là soit très bien faite, bien équilibrée, qu'elle soit en plein dedans, quoi, ça peut arriver. Hein. Je dis mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus par rapport à ça? Tu veux cette idée-là, mais sauf que celle-là, elle est parfaite. Donc qu'est-ce que je fais derrière? Ouais.
Un jour, comme ça, on m'a demandé de faire un plagiat sans me le dire.
Ah oui?
Ouais, c'était incroyable. En fait, on m'a fait un brief qui était d'une précision extraordinaire. Et puis, comme d'habitude, je fais mes crayonnés, et puis j'en fais un pour leur faire plaisir, et puis j'en fais deux, trois pour explorer d'autres choses, on va dire. Et puis, ils recentraient toujours leurs idées, à tel point que ça devenait très très précis. Ils me disaient, là en haut à gauche on veut ça, en haut à droite on veut ça, nanana. Et puis, je trouvais ça bizarre, quoi, ça se passe rarement comme ça.
Oui.
Et puis, donc je fais l'image, grande peinture à l'huile, machin chose et tout.
Derrière.
Puis il y a un coursier qui vient de prendre, puis l'éditeur me dit je pars 10 jours en vacances, je te recontacte quand on revient. Et puis au bout de 3 semaines, j'avais pas de nouvelles. Et puis finalement, je téléphone. Et le gars me dit on t'a pas dit, aïe aïe aïe, on peut pas prendre ton image. Il y a un livre qui sort avec une image qui ressemble beaucoup à la nôtre. C'est très embêtant. Mmh. En fait, ce qui s'était passé, c'est que moi je devais illustrer une adaptation d'un roman espagnol, me semble-t-il. Et puis, il y avait un roman américain à peu près sur le même sujet. Au moment de faire leur mood board pour trouver des idées pour la couve, ils avaient vu cette couverture d'un livre américain qui leur plaisait, mais qui n'était pas le même roman. Donc, ils n'ont pas acheté les droits de cette image. Et puis, un autre éditeur concurrent français a acheté les droits du roman américain. Et donc, en même temps, il y aurait eu deux livres, l'américain avec la couverture d'origine et puis l'espagnol traduit en français avec ma version de la couve, sans le savoir. Et donc, on m'a pas pris l'image. Oui.
Mais vous avez été payé quand même
La moitié.
Un peu abusé.
À ce moment-là, d'ailleurs, j'ai arrêté de travailler en édition.
Maintenant moins, avec l'expérience, on nous embête moins. On nous fait confiance, en fait.
Je suis passé à l'audiovisuel à ce moment-là avec grand plaisir.
Oui.
Ouais.
Mais il peut arriver.
Et je suis revenu à l'édition, mais avec des projets personnels, en fait. Là, j'ai arrêté. Les trucs de commandes et tout, et les seules commandes que je prends aujourd'hui, c'est des commandes avec des gens avec qui j'aime bien travailler, que je connais bien, et dont les sujets correspondent à ce que moi j'aime dessiner.
Après, c'est un peu plus rare maintenant, mais à une époque, il y avait 5 personnes qui donnaient leur avis sur une image.
C'est impossible.
Les commerciaux aussi, et finalement... ça a annulé tout ce qui était bien sur l'image souvent. Donc ça m'est arrivé et à la fin ils me disent non finalement elle est pas assez forte. Je dis mais ouais, mais vous avez retiré tout ce qui était bien dessus, quoi. Donc, voilà.
Ça arrive toujours dans la publicité, ça.
Ouais. Donc c'est en fait il vaut mieux une idée bien fichue et bien réalisée et quitte à prendre le risque que ça marche ou ça marche moins bien, plutôt que 5 avis différents pour essayer de faire un espèce de panel de cibles, quoi,
bien
de
sûr,
gens qui vont aimer.
Il faut que ce soit, c'est ça.
Les gens se retrouveront plus si c'est quelque chose de plus personnel aussi. Ils retrouveront quelque chose d'eux dedans.
Vous faites un peu confiance.
Oui.
Didier, vous lisez vraiment tous les livres que vous illustrez?
Un peu moins maintenant, mais à une époque, je voulais vraiment les lire. Alors évidemment, des séries comme La Compagnie Noire que j'ai illustrées donc, pour les couvertures, et après je les ai réillustrées pour ce qu'on appelle les omnibus.
Il y a pas mal de volumes.
Avec des images intérieures et tout. Là, je les ai lus plusieurs fois et c'était très très compliqué.
Pourquoi ?
Parce qu'en fait, on a des personnages qui ont des pseudos, qui reviennent, qui meurent, qui reviennent, qui sont... On peut avoir trois lieux différents, sur trois temps différents, enfin c'est très complexe. Et l'écriture de La Compagnie Noire, elle n'est pas facile à lire quand même. Hein. Glenn Cook, c'est compliqué. Glenn Cook, c'est un ancien militaire. Il a on sent qu'il gère ses bouquins comme vraiment comme une grande bataille. Il y a de la stratégie, il y a beaucoup de choses.
Oui.
C'est pas évident. J'avais eu l'occasion il y a quelques années de le rencontrer aux Utopias à Nantes et on avait parlé un peu. Et lui, il parle pas beaucoup en fait. Il garde ça pour lui. On sent bien qu'il a des choses à dire dans ses livres, dans ses romans, mais que derrière tout ce qui concerne la guerre qu'il a vécue, hein, je pense au Vietnam, eh ben il en parle pas. Donc il fallait un peu lui tirer les verres du nez quoi, pour avoir un peu des infos, mais c'était intéressant quoi. Et on retrouve ça, dans le roman, c'est particulier. Après, c'est pas facile à lire, j'avoue que La Compagnie Noire c'est très complexe, il y a beaucoup de volumes, il y en a 12 ou 13. Voilà, il faut arriver au bout.
Et alors, lorsque vous avez une commande, par exemple, pour La Compagnie Noire ou pour David Gemmell, est-ce qu'on vous dit, tu dois dessiner ça, tu dois dessiner ce type de ce héros-là, tu dois dessiner cette situation ?
Non, alors pour La Compagnie Noire, j'ai une totale liberté. D'ailleurs, je leur avais mis des morillons, enfin, au personnage, ils avaient des casques espagnols. Là, et en fait, c'est pas du tout décrit comme ça dans le roman. Je me dis, tiens, je les verrais bien avec des casques comme ça. Il y en a qu'un qui s'appelle Vol Esprit dans le roman, qui a un casque comme ça, mais les autres n'ont pas du tout ces casques-là. Mais moi, je le voyais comme ça. Je ne sais pas pourquoi. En lisant, j'ai dû garder ça en mémoire et c'est ressorti comme ça. Quant à David Gemmell, à la base, l'éditeur m'avait demandé de faire une hache. La hache de Druss, qui est le personnage principal.
Oui.
Donc Snaga, qui est la hache de Druss. Et donc voilà, c'est tout.
Donc il y a la hache qui est déclinée sur les différents volumes.
Qui a été déclinée sur différents volumes. Et c'est vrai que j'ai en fait pas du tout et jamais représenté Druss, quoi.
Mm-hmm.
C'était son arme emblématique qui était mise en valeur. Et voilà.
Mm. Et alors, par exemple, pour le Trône de Fer, le calendrier, vous avez fait le parti de rien, vous avez fait...
Alors ça, je suis parti du texte. J'avais pas le droit de me baser sur la série. J'étais en rapport en fait avec l'agent qui renvoyait à George Martin, l'auteur du Trône de Fer, avec le décalage horaire aussi. Je crois qu'il habite San Diego, quelque chose comme ça. Donc en fait, j'avais les retours des fois une journée après, le soir à 11h, minuit, donc de l'agent. Donc il fallait que l'agent en fait renvoie l'info, que l'info revienne vers lui et ainsi de suite.
Oui.
Donc tout ça en anglais évidemment. Et je devais me baser sur le texte, donc je les ai lus, et en fait j'étais en avance même sur la série, parce que j'avais lu...
Il y en a long, oui.
Et d'ailleurs, quand on regarde la série, ben, alors, pour ceux qui l'ont vu, ben, ça devient moins intéressant à partir du moment où il n'y a plus le support du livre, quoi. Donc je pense que les scénaristes sont vraiment ont repris tout ce qui était bien dans le livre, et à un moment, quand il n'y a plus cette aide par le texte, ça tombe un peu.
Oui, oui.
Après, au niveau du travail, c'était très complexe, vu que c'était pas le premier calendrier avec cet éditeur qui était fait. Donc, il fallait pas que je fasse les images qui avaient déjà été faites. Donc, évidemment, le Trône de Fer, le machin qui était déjà vu.
Il a fallu
que je travaille sur d'autres...
Mais c'est étonnant que l'auteur ait pu avoir son mot à dire sur vos illustrations, parce que vous
normal.
Êtes en France et lui, il est américain.
Oui, mais...
Bah,
moi, je trouve ça normal, ouais. Ouais.
C'est souvent ? C'est courant ?
Alors, en France, moi, j'aime pas... Alors, je vais dire un truc qui va peut-être pas plaire, mais souvent, j'aime pas travailler avec un auteur quand c'est une couverture, parce que ça peut être une catastrophe s'il donne son avis. Il a une idée, lui, il a travaillé sur 99% du livre, 99,5% du livre, et nous, on arrive à la fin et on fait une image, en fait. Et parfois, ça peut être un frein où il voit, lui, il voyait pas ses personnages comme ça, mais c'est à moi de l'interpréter, de réadapter...
Par exemple, qu'est-ce qui vous a fait pour George Martin, qu'est-ce qui vous a fait refaire?
Alors pour être simple, j'ai rien amené ici, mais j'ai dû faire un calendrier, donc 12 images plus une centrale. J'ai dû leur fournir 24 images au début. Ils en ont accepté 8, donc 4 à refaire.
Oui.
Donc en fait, il m'en restait 4 à trouver, 4 à modifier. Et donc ça a été un travail de longue haleine, et j'ai des fiches de lecture là-dessus, parce que voilà, j'étais obligé de tout référencer pour savoir comment étaient les personnages et tout, les vêtements, tout ça, des fiches de lecture énormes. Et donc après, après ces petites vignettes, que je leur avais proposé. J'ai refait les dessins un peu plus précis. Et après, je les ai, une fois qu'ils étaient validés, je les ai refaits en grand format. Et après, donc, crayon et puis peinture.
Oui, et donc c'était vraiment ce que voulait l'auteur. C'est l'auteur qui décidait ou l'éditeur?
Non, c'est moi qui décidais des scènes, en fait. Enfin, oui. des passages que j'allais prendre dans le livre. C'est moi qui décidais, mais il avait son mot à dire sur mon interprétation. En fait.
Oui. Et est-ce qu'après, vous êtes allé voir ce que faisaient d'autres illustrateurs pour la même série?
J'en ai vu certaines que l'agent m'envoyait pour me montrer, quoi, mais c'est des calendriers qui sont édités qu'aux États-Unis, en fait. Oui. Donc, en France, on ne les voit pas.
Oui. Et alors, justement, pour les livres qui viennent, par exemple, de l'étranger et que vous illustrez, donc vous n'allez pas voir l'illustration originale. Une fois que vous avez fini votre dessin, qu'il a été publié, est-ce que vous allez voir les autres illustrations pour comparer? C'est quelque chose que vous faites
bon, moi, non, déjà parce que j'illustre plutôt des illustrateurs morts. Non mais c'est vrai qu'ils sont morts il y a longtemps, donc et il y a tellement d'images. Je veux dire, les derniers auteurs sur lesquels j'ai travaillé, c'est Mary Shelley pour Frankenstein, Rudyard Kipling, mais ça c'était un choix perso, Lovecraft aussi, enfin voilà, c'est Edgar Poe. Donc en fait, depuis un siècle, il y a quand même beaucoup d'images. Sur Kipling, il n'y en avait pas tellement parce que c'est pas son texte le plus connu et que j'ai fait plus de dessins que quiconque sur le sujet. Mais en tout cas, je regrette pas, en fait. Même, par exemple, Lovecraft, moi, j'en suis au cinquième, je crois, ou au sixième, cinquième, je crois, d'une série de livres sur Lovecraft. Bon, bah, y a notamment des mangas adaptés de Lovecraft qui ont beaucoup de succès. Je les achète pour le principe, et puis je les regarde un peu, mais je les regarde plus. Parce que j'ai pas non plus envie de penser Lovecraft du matin au soir, rêver Lovecraft, manger Lovecraft au petit déjeuner. Enfin, voilà. Déjà, quand je dessine un texte, j'aime. C'est pour ça aussi que j'aime pas les histoires de délai, de deadline. J'aime me plonger dans l'histoire et ça peut prendre des mois avant que ça vienne. J'ai besoin de me sentir dans cet environnement, dans cette atmosphère. Quand j'ai illustré L'homme qui voulut être roi de Rudyard Kipling, j'ai appris une langue locale. Je m'intéressais, je connaissais le nom de tous les villages, de toutes les tribus à la frontière de l'Afghanistan et du Pakistan. Enfin, pour moi, c'était très important.
Oui.
Je connaissais un peu la topographie des lieux. Enfin, voilà, pour moi, c'est une démarche totale. Donc, il y a des moments où, en revanche, il faut en sortir, quoi. Voilà,
donc, oui. Et vous, Didier ?
Oui. Alors j'ai la chance de travailler aussi avec des auteurs vivants. J'avais illustré Jules Verne il y a quelques années. Bon là, voilà. Bon,
Pierre, alors, Jules Verne, il y a des tas pour un.
Voilà, il y a des tas d'images. Et puis bon, j'avais. D'ailleurs, c'était mon premier gros travail illustrateur, on va dire. Mmh. Après le jeu de rôle, c'était 20 milieux sous les mers. Donc ça, c'était une très belle période pour moi.
Et vous aviez forcément en tête quelque chose pour 20 milieux sous les mers
J'avais le film de Disney, moi, je l'avais vu, alors pas petit, parce qu'il est sorti en 53, quelque chose comme ça, ou 55, je sais plus. Mais je l'avais vu avec ma grand-mère quand j'étais petit, quoi.
Oui.
Donc le Nautilus d'Harper Goff, qui est le designer du Nautilus, m'avait marqué, comme tous les enfants à l'époque. Et puis c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup moins de films de science-fiction qu'aujourd'hui.
Il y en a 12 par mois.
Donc voilà, fallait chercher. En fait, on a tous les mêmes sources. Hein, quand on est des années. Quand on était ado en 80-90, on a à peu près tous les mêmes sources de films, de musique et tout ça.
Oui.
Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est tellement hétéroclite.
Il y a tellement de sources qu'on va pas.
Si les jeunes, je pense, sur les réseaux ont les mêmes. Ils écoutent les mêmes trucs, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, quoi.
Disons que pour chaque domaine qui pouvait nous intéresser, il y avait moins de choix, tout simplement. Des films comme Blade Runner, par exemple, il y a Blade Runner à l'époque. Maintenant, je pense que si on regarde Netflix, Amazon, machin chose, truc mûche, le cinéma, en fait, il y a 12 trucs inspirés de Blade Runner toutes les 3 semaines.
Oui.
Donc c'est pas la même chose jusqu'à, pour moi, une indigestion totale de ce genre de choses.
Et c'est pas bon en plus la plupart du temps.
Ça les vide de ce qu'ils faisaient, tout leur sel.
Oui, trouve. Oui. Et donc, vous n'allez pas, Didier, vous n'allez pas chercher après pour voir si d'autres ont fait le même dessin que vous ou non, c'est pas quelque chose, une démarche.
Je vais pas le chercher, alors c'est vraiment parce que c'est pas que ça m'intéresse pas, mais je vois pas l'utilité. Et je vous dis, c'est vraiment le problème, c'est que quand on va voir une image, elle va s'imprimer d'une certaine manière, donc j'évite de regarder. Je tape pas, par exemple, steampunk sur Google, j'évite, je le fais pas. Il y a plein de trucs super hein, en numérique et tout, qui sont très beaux, qui sont impressionnants et tout, mais ça me. Alors voilà, alors après le risque c'est de plus avoir trop d'idées et puis de, mais je pense que par le texte en fait on a plus d'idées que par l'image.
Oui.
Ça me permet d'avoir quand même un horizon un peu plus vierge, on va dire, et là je peux trouver des choses quoi dans le texte, une phrase des fois qui va m'inspirer.
Ouais. Et alors pourquoi les éditeurs étrangers, je reste sur les éditeurs par exemple américains, ne vont pas les éditeurs français ne vont pas acheter l'édition originale, l'illustration originale.
Ils le font. Ils l'ont fait beaucoup d'ailleurs à une époque. Il y a des banques d'images qui existent pour ça aussi. Mais bon, qu'ils fassent confiance aux Français, on est aussi
mais
bon
oui,
qu'eux. Hein.
C'est sûr.
Après, la différence, c'est que c'est vrai que les États-Unis, c'est vraiment un pays d'images, en fantasy en tout cas. Ils ont toujours vraiment respecté l'image. Il n'y a pas eu, je trouve, je me souviens, à Washington, j'avais eu l'occasion d'aller au Art Museum là-bas, et en fait les tableaux c'est comme des grandes illustrations quoi, il n'y a pas eu de rupture. Nous on a eu l'art moderne qui est arrivé un peu au milieu de tout ça, le cubisme et tout. Je trouve qu'il n'y a pas de rupture aux États-Unis quoi, entre les illustrations qui étaient faites au début du siècle et la peinture actuelle aussi, je trouve qu'il y a une continuité de tradition qu'on trouve moins en France. En France on n'a pas respecté l'image, moi je le dis clairement. Je trouve que on respecte les grands auteurs, les Victor Hugo, les je sais pas moi, mais je trouve qu'en France on n'a pas respecté l'image parce qu'on s'en est détaché un moment en fait. Quand j'ai commencé mon activité, par exemple faire une couverture, les éditeurs s'en foutaient quoi, qu'il y ait n'importe quoi dessus, fallait que vendre un livre quoi. Je trouve qu'aujourd'hui on se dit une image de couverture c'est une image commerciale, hein. C'est une image pour vendre un livre. Ça n'empêche pas d'avoir quelque chose à dire dessus, hein. C'est ce que je défends vraiment depuis le début.
Donc il y a une évolution positive.
Oui, ça revient, mais parce que c'est un marché qui, voilà, puis il y a tellement de livres aujourd'hui que, mais je trouve qu'il y a 30 ans c'était vraiment la couve, tout le monde s'en fichait. Mais vraiment, c'était.
En plus, on trouvait beaucoup plus facilement des livres dont la couverture n'avait absolument aucun rapport avec le contenu.
Bah oui.
Ça, c'était extraordinaire. J'ai des bouquins, par exemple, des années 80, des J'ai lu de Philippe K. Dick, avec des illustrations complètement aberrantes qui n'avaient absolument rien à voir avec le contenu. Aujourd'hui, on fait un peu plus attention. Après, c'est vrai que pour se permettre aussi d'embaucher un illustrateur pour la couverture d'un livre poche, il faut, ou alors que voilà, c'est des livres qui marchent bien. Ou alors, il faut que ce soit vraiment, j'aime pas cette expression, mais dans l'ADN de l'éditeur. Parce que je trouve que chez Brajlon, ils font beaucoup de créations, justement. Mais en fait, ça coûte moins cher, dans l'absolu, de racheter les droits d'une image américaine ou d'aller sur une banque d'images type Getty ou je ne sais quoi, ou Alamy, peu importe, et trouver une image. Moi, je me souviens que, par exemple, je voulais, à un moment donné, faire des couvertures de romans policiers, parce que moi, je lisais pas de fantasy. Et j'en ai parlé à un éditeur qui m'a dit « Bah oui, mais en fait... Pour 100 balles ou 150 balles, on trouve une photo très bien sur Getty et qui donne une impression en plus encore plus forte de se rapprocher des films policiers. Enfin voilà. Donc
après il y a eu la période où le numérique est arrivé, où certains des directeurs artistiques avaient juste un appareil photo numérique, prenaient un truc en photo et puis bidouillaient ça pour arrondir leur fin de mois. J'ai connu ça. C'est-à-dire, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 6 mois, 1 an, mais il y a eu une espèce de baisse de l'activité d'illustrateur parce que les gens s'improvisaient en fait illustrateur. N'importe qui peut le faire, je dirais, mais c'est pas pour ça que ça va donner quelque chose, quoi.
Oui. Donc il y a une évolution positive aujourd'hui, on peut le dire, avec plus d'intérêt de lecteurs, plus de livres qui sortent et plus de commandes, même s'il y a beaucoup plus de concurrence chez les illustrateurs et que c'est très compliqué.
C'est une bonne période,
de
même pendant la période qu'on vit actuellement, la Covid, je crois que l'édition se porte bien. Hein.
Oui.
Il n'y a pas eu de... On avait un peu peur de ça, quoi, en fait. Et en fait, voilà, je ne sais pas s'il y a des nouveaux lecteurs, il y en a certainement un petit peu, mais en tout cas, ceux qui lisaient déjà lisent toujours autant, voire plus. Hein. Ça, c'est sûr.
Alors, on arrive au terme de cette émission. Sur quoi va-t-on pouvoir retrouver vos illustrations prochainement, Didier Graffet ?
Alors, j'ai sorti un livre qui s'appelle Effluvium il y a quelques années, qui était en fait une espèce de gros catalogue d'exposition d'une expo que j'avais faite avant avec la galerie Daniel Maguen à Paris. Donc ce livre-là est toujours disponible. Bon. Je suis à flux tendu sur les couvertures,
oui,
en permanence, que je disais, et surtout sur des séries de fantasy qui sont assez prolifiques, donc du coup, bah, voilà, ça arrive régulièrement. Il y a eu,
par exemple, là, vous êtes sur quoi ?
Les Maîtres en Lumineur chez Albin Michel, donc voilà, la série de Foundryside.
Oui.
Là, je suis sur une série historique chez Bragelonne, qui s'appelle Les Aigles de l'Empire. À côté de ça, il y a aussi les Chroniques Saxonnes. Donc c'est l'adaptation, ça c'est pareil. Il y a aussi la série Netflix qui est The Last Kingdom, en fait, qui est l'adaptation de ces Chroniques Saxonnes. Voilà. Donc du coup, ça n'arrête pas à ce niveau-là. Et puis, bah, j'espère faire une expo bientôt à la galerie, mais on verra.
Très bien. Et vous, Armel Gaulm ?
Moi, bah, je toujours plusieurs trucs sur le feu. J'ai sorti une édition, on va dire, qu'on appelle bibliophile, de luxe, quoi, de tout le travail que j'ai fait sur Rudyard Kipling, sur L'homme qui voulait être roi, aux éditions Corrette, avec qui je travaille beaucoup. Je travaille aussi, je finis une monographie sur on va dire, l'ensemble de mon travail, pour eux. Donc ça, c'est un gros bouquin, quand même. Et puis, j'ai toujours ma collection Les Carnets Lovecraft, chez Bragelonne.
Oui,
donc il y a un nouveau qui Lovecraft qui sort en fin avril. Voilà, puis des couvertures de livres pour de la BD. Toujours la série de BD qui s'appelle Hurlevent, donc, dont je m'occupe du design. Voilà, des choses comme ça, du design parfois pour des films.
Très bien, voilà. Merci. Bon, on va suivre votre travail à
merci.
Tous les deux.
Merci.
Didier Graffet et Armel Gaulm, merci d'avoir participé à cette émission.
C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.